Bien chers parents, Dieu vous a confié une fort belle mission, communiquer la vie à des petits êtres et les conduire à un état parfait, à la perfection même. Mais si les premières années de l'enfance déconcertent parfois les jeunes parents, c'est sans doute parce que le petit être que la Providence a confié à leurs soins se révèle nécessaire à dompter. Mais au bout de quelque temps, le fruit de cet effort peut paraître en partie récompensé. C'est alors que surgit une mutation qui vient troubler la sérénité et parfois faire sombrer les espoirs. Disgrâce du corps s'allie avec des comportements psychologiques désagréables, irrationnels. Parfois s'y ajoute une incompréhension affective, une impiété accablante. Bouleversement déroutant, et il faut une dose forcenée d'optimisme pour garder le cap avec doigté quand tout semble s'effondrer. Comme le fait remarquer saint Paul dans la première aux Corinthiens, quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Devenu homme, je me suis défait de ce qui tenait de l'enfance. Le corps et l'intelligence de l'enfant étaient adaptés à sa vie d'enfance, et voici que son corps se modifie, son intelligence évolue, ses sentiments se mettent à bouillir, alors qu'il n'est pas adapté à la vie d'adulte. Mais que peu à peu, il est en passe de le devenir par étapes. Nous nous attarderons tout d'abord sur les stades du développement les plus couramment observés, avant d'entrer dans les attitudes générales et précises qu'il convient d'adopter. En préambule, il me faut préciser que les âges sont indicatifs. Les observations se répartissent selon une courbe de Gauss, avec des extrêmes aux limites de l'imprévu. Parfois aussi, certains stades de développement se chevauchent, s'intervertissent. Comme toute analyse humaine, il ne peut s'agir d'être des doctrinaires mathématiques. Prenons garde aussi, l'adolescence est une transition obligée. Et il ne faut pas croire que l'absence de barbe ou la mue en retard signifie qu'elle n'est pas en cours. Et à cet effet, les symptômes psychologiques sont sans doute les plus importants. L'absence de certaines révoltes sur l'habillement, la musique, ne suffisent pas non plus. Et méfiez-vous des cas extrêmes où vous n'avez rien remarqué, car le réveil est tellement surprenant qu'il est parfois douloureux. Tout d'abord, l'enfance adulte. Vers les 10-12 ans, se marque comme un palier, une sorte de stabilité. La petite personnalité a des contours définis. Pour les parents, il est déjà un enfant à qui on peut confier de petites tâches. Mais pour la joie des parents, il reste cependant leur enfant, en tout relié et attaché. L'univers psychologique reste enfantin. La synthèse des soucis des parents est rarement perçue. À l'inverse, ayant eu à m'occuper de beaucoup d'enfants de milieux défavorisés, il existe une maturité un peu rude, déformante chez l'enfant qui a souffert, puis chez celui qui a assisté à des drames familiaux, les multiples séparations, l'immoralité, la méchanceté, l'inéducation en général. Il existe des enfants manifestement très tôt meurtris par la vie. Du côté de la vie morale, on connaît aussi le fonctionnement de son travail, de ses manques, de ses paresses. Défauts dominants et qualités maîtresses sont assez faciles à définir. Mais, il faut le reconnaître, la vie morale ne connaît pas de gros écarts. Et il en ressort une sorte de médiocrité morale, contente de soi. Quant à l'ordre de la pureté, pour un enfant normalement éduqué, s'il n'y a pas eu de désastre, beaucoup d'enfants restent relativement tranquilles, mais pas tous cependant. Ne nous y trompons pas. Car si un enfant, garçon ou fille, a pris des habitudes de plaisir impur, il est très difficile de l'en arracher. On a comme l'impression que la volonté, à cet âge-là, n'est pas adaptée à ce problème. Et s'il peut y avoir des découvertes accidentelles dans ce domaine, il importe cependant d'être d'une extrême vigilance sur les camarades, sur les cousins. Si la fillette mesure plus son effort, on assiste chez le garçon à un regain de vie spirituelle, ce qui explique que c'est l'âge d'or de la croisade eucharistique. On peut dynamiser l'âme pour de beaux efforts. Et chose curieuse, cette piété se juxtapose avec cette assurance d'invulnérabilité dont nous avons parlé. Demandez à un enfant s'il a pu commettre un écart important. Il vous regarde de haut, en se demandant pourquoi on ose mettre en doute sa vertu. La conjonction de la croisade eucharistique et d'activités du type scoutisme ou assimilé peut être bénéfique, car ce dernier formate davantage les traits extérieurs, les caractéristiques du comportement naturel, qui servent de soubassement bien nécessaire à la surnature. Et il faut remarquer que tous les camps de la croisade n'y concourent pas nécessairement. Dans l'entremonde moderne, cette enfance adulte a presque disparu. L'enfant de sixième, par exemple, connaît, s'il ne les pratique, tous les désordres, sans avoir la structure psychologique et physiologique pour y résister. Oh, certains arguent d'une adolescence plus précoce, voire d'enfants plus avertis. Tous les psychologues sont formels, ce n'est pas vrai. C'est en réalité le signe de la lâcheté des parents dans les choix des amis, des lectures, des spectacles. Des parents qui traitent ces enfants en valorisant leur fausse précocité pour se donner bonne conscience, alors que dans le fond, ces enfants seraient équilibrés s'ils rencontraient une véritable autorité. Nous en arrivons à la préface de l'adolescence. À partir de ce stade, si les modifications créent autant de problèmes chez les garçons que chez les filles, de nombreux aspects cependant se déroulent de façon assez différente. Nous essaierons de voir des points communs et de préciser certaines différences. Il existe des sortes de préavis d'adolescence. Avant la véritable entrée biologique dans l'adolescence, quelques 18 mois à 2 ans auparavant, l'enfant donne quelques coups de semonce. On les ressent généralement au cours de la cinquième ou de la classe de quatrième. L'enfant en a assez d'être parmi les petits, d'être traité en enfant. Dans l'obéissance, on sent plus un freinage, des pieds qui traînent, des demandes qui ne sont pas digérées, plus que des désobéissances spectaculaires. Et pourtant, il ne se rend pas toujours compte de cette lenteur face à l'autorité. Et une ou deux insolences, un peu spectaculaires, imprévisibles, émaillent le tout. Qu'est-ce que l'adolescence? Il faut s'éloigner des concepts trop restrictifs. Il ne s'agit pas de la seule puberté qui s'étagerait pendant 14 à 24 mois. Certains symptômes sont antécédents, et un très grand nombre est subséquent. D'abord, l'enfant n'est pas L'adolescent n'est pas un enfant. Il n'est pas un adulte modèle réduit non plus. Quelle affliction de voir arriver dans un bureau de directeur, comme cela m'est arrivé, les parents avec l'enfant. Et au fur et à mesure que la conversation se déroule, les parents se tournent vers l'enfant, lui demandant de se prendre en main, lui disant « Tu vois, nous te l'avons dit, il est très important que tu comprennes, es-tu d'accord avec ce que vient de dire le directeur ?» Comme s'il s'agissait d'un adulte. Ce n'est absolument pas le mode de fonctionnement de cet âge. L'adolescent est celui qui devient un adulte par une complète transformation psychologique et physiologique. Corps et âme. Les deux familles de modifications ne peuvent être séparées. Même les sautes d'humeur, les désordres imprévisibles de l'enfant d'hier ponctuent à ce titre une marche, une avancée. À l'ordre statique d'une vie trop faible pour se communiquer et s'émanciper, tout en dépendance d'autrui, succède une vie dynamique, orientée vers l'expansion de la vie. Si l'adolescent est celui qui devient un adulte, il le devient en deux étapes distinctes. La construction intérieure de son caractère, quitte à rejeter certaines influences extérieures, et puis l'établissement dans la vie sociale. Il commence alors à affronter les caractères des autres, sans être toutefois assez fort pour être certain d'y sauvegarder le sien. Il y a une sorte de conformisme social. Ce n'est que lorsque la personnalité a repris ses propres dimensions face au monde que l'adulte est achevé. Mais alors on approche de la 20e année. Les phases de l'adolescence, pour les garçons de chez nous, le tempérament moyen de la France, s'il n'est ni en avance ni en retard dans son développement, la marche de l'adolescence est la suivante. L'enfance adulte, dès 11 ans, c'est-à-dire pendant la 12e année, avec une crise d'émancipation, annonce de l'adolescence. Mais, physiquement, psychologiquement, vous ai-je dit, garçon ou fille restent des enfants. Mais des enfants un peu à l'état parfait pour des enfants. Pour le garçon, à l'école, il y a souvent une sorte de pitié narquoise, de lenteur, à obtempérer face aux femmes. Toute soumission à des femmes non titulaires de l'autorité féminine est houleuse. Une assistante au louveteau, une grand-mère, une personne qui remplace à la maison. Aussi l'autorité du père doit se faire sentir directement. Et la mère de son côté doit s'efforcer d'entrer moins dans les détails et de perdre l'allure de protection enveloppante. Face au petit, le garçon est souvent gênant dans les jeux, alors que la fille tendra à être davantage organisatrice. C'est en général à ce moment que le directeur d'école voit arriver des parents, accusant les mauvais camarades, le manque de surveillance, puisque le petit étant forcément parfait, ce sont toujours les autres qui sont cause de ces mutations. J'ai connu un parent, retirant son fils de l'école, car son garçon lui avoua qu'en quatrième, il venait de commencer à mentir, en même temps que ses camarades. Signe d'un manque grave de connaissance des étapes de l'adolescence chez ce père. Chez la fille, on n'est plus tenté de lui accorder plus de sérieux. Elle s'intéresse plus précocement à son travail scolaire, plus exact dans l'exécution matérielle de certaines tâches. Mais il ne faut point s'y tromper. Chez elle, imagination et sensibilité créent son univers et elle se permet d'affabuler assez facilement. Ensuite, la jeune adolescence, de 12 à 14 ans. Période prépubertaire, augmentation du poids et de la force qui ne sont pas proportionnées à celle de la taille. La croissance osseuse précède la croissance musculaire. Celle des membres anticipe celle du tronc. Le garçon, surtout, est maladroit, disproportionné et déséquilibré. La fille se plaint de l'irrégularité de ses traits souvent. Psychologiquement, il reste des enfants, à 12 ans, mais à 13 ou 14 ans commence l'âge ingrat, avec des caractéristiques comme l'instabilité générale, l'affirmation du moi par opposition et contradiction. Alors l'équilibre intérieur est détruit. La fille commence avec un peu d'avance son évolution. Chez elle, l'opposition s'affirme souvent, pas toujours, de façon plus sournoise. Il s'incruste une indocilité d'esprit alors qu'extérieurement elle semble pliée. Et à la recherche d'une identité, elle semble regarder vers ses frères comme un idéal. Et il n'est pas rare de voir surgir une crise que l'on nous pourrait appeler une crise de garçonnisme. Pour le garçon, à l'école, il y a souvent une sorte de pitié narquoise, de lenteur, à obtempérer face aux femmes. Toute soumission à des femmes non titulaires de l'autorité féminine est houleuse. Une assistante au louveteau, une grand-mère, une personne qui remplace à la maison. Aussi, l'autorité du père doit se faire sentir directement. Et la mère, de son côté, doit s'efforcer d'entrer moins dans les détails et de perdre l'allure de protection enveloppante. Face au petit, le garçon est souvent gênant dans les jeux, alors que la fille tendra à être davantage organisatrice. C'est en général à ce moment que le directeur d'école voit arriver des parents, accusant les mauvais camarades, le manque de surveillance, puisque le petit étant forcément parfait, ce sont toujours les autres qui sont cause de ces mutations. J'ai connu un parent retirant son fils de l'école, car son garçon lui avoua qu'en quatrième, il venait de commencer à mentir, en même temps que ses camarades. Signe d'un manque grave de connaissance des étapes de l'adolescence chez ce père. Chez la fille, on n'est plus tenté de lui accorder plus de sérieux. Elle s'intéresse plus précocement à son travail scolaire, plus exact dans l'exécution matérielle de certaines tâches. Mais il ne faut point s'y tromper, chez elle, imagination et sensibilité créent son univers et elle se permet d'affabuler assez facilement. À cet âge, elle est facilement impressionnable. La grande adolescence, de 14 à 17 ans, qu'on pourrait appeler la révolution pubertaire. Dans l'ordre physique, la croissance en taille est encore plus rapide, se ralentissant un peu pendant la 17e année. Le poids augmente en proportion, le système musculaire s'épaissit, les caractères sexuels s'affirment, en particulier chez le garçon la mue de la voix, l'apparition de traces de moustache ou de barbe, l'apparition de ses formes pour la fille. La fonction sexuelle entre en jeu, ce qui conditionne de nombreux paramètres, nous le verrons. Il en résulte une sorte de curiosité et d'inquiétude dans l'observation de son propre corps. Et pourtant, quelle soif de paraître mieux que l'impression que le jeune a de lui-même. Maquillage excessif, importance démesurée pour la coiffure, même chez les garçons. Pour ces derniers, désir de travailler leur musculature. Au début, la fille est généralement timide. Elle se trouve rarement belle. Et elle est comme gênée. Elle cherche un appui, souvent auprès d'une amie, avec laquelle elle mène toute sa vie. Et puis tout le corps va devenir celui d'un adulte. L'allure physiologique, d'abord désordonnée, va s'équilibrer peu à peu. Dans l'ordre psychologique, c'est une période d'action, de relations nombreuses, d'effervescence sentimentale, jusqu'à ce que peu à peu, la personnalité redevienne stable. L'affirmation du moi, qui à la fin est plus positive que négative. L'intelligence prend son essor, sa forme caractéristique. À 17 ans, l'ordre intérieur de la personnalité est établi dans ses lignes principales. C'est une période où l'humour règne aisément. Il est vrai que pour eux, leur intelligence se développant, il est facile de juger, d'apercevoir les hiatus. À un âge où l'on ne porte pas les vraies responsabilités. Et l'adulte doit savoir sourire et ne point craindre cet humour. En tout cas, pas au point de renoncer aux exigences qu'il est en droit de demander. Seule la manière peut ou plutôt doit être différente. Période aussi où l'amour, pour des personnes ou des idées, peut conduire à des excès ou à des manques de jugement. Amour qui n'est d'ailleurs pas seulement dans l'ordre de la passion physiologique. Dans l'ordre de l'activité, si le garçon s'épanouit dans l'action, La fille réagit avec le cœur, de manière au moins subconsciente. Il demeure chez elle un besoin d'aimer et d'être aimé, qui n'atteindra d'ailleurs sa plénitude que dans la maternité ultérieure. De fait, l'avantage pour elle est sa grande capacité à s'occuper d'enfants, et il faut développer cette capacité. Quand elle recherche l'amour d'un garçon, son manque d'affirmation de sa personnalité fait qu'elle régit toujours l'aventure avec l'appui d'une amie qui sait tout. Mais comme en toute adolescence, il y a aussi des aspects de résistance à sa vocation, une sorte de désir de désinvolture, des attitudes de rejet de sa condition féminine. Et la société actuelle hypertrophie ce phénomène, le transformant en une nouvelle identité de femme, à tel point que c'est la femme désinvolte, la femme qui rejette sa condition, qui devient le modèle. D'autant plus qu'on ajoute à la femme une formation masculine, et souvent un appel, un goût, une préparation au travail masculin, et que les groupes mixtes détonnent sur elle, quitte à lui donner des comportements masculins. Le garçon fait plus enfantin dans cet ordre-là, lui aussi résiste à sa vocation, mais plutôt par gaminerie. Il ne pense pas à l'avenir. Et puis par un conformisme irréfléchi avec un groupe d'amis. Dans l'ordre intellectuel, on assiste à l'éveil d'une réelle capacité d'abstraction. On peut noter cependant que des études sérieuses ont fait observer que si on n'utilise pas cette capacité d'abstraction, ce qui se produit chez des gens qui n'ont plus la chance ni les moyens d'être scolarisés, on peut en limiter l'usage ultérieur. Dans l'ordre intellectuel, les filles ont une précocité au moins de 2 ans sur les garçons. Dans l'ordre de la conscience, cette période est celle d'une longue lutte. D'abord contre ses propres attraits ou désordres, dont ceux de la pureté occupent une place prépondérante. À tel point d'ailleurs que pour un confesseur, il est difficile de mettre en relief les autres défauts, l'égoïsme, le désir de paraître, le manque de charité, la paresse, qui nuisent fortement à l'établissement de la personnalité. Période avec ses hauts et ses bas, où s'opposent la générosité, la lassitude du combat, mêlée parfois du scrupule et du laxisme. Autant dire que le rôle du confesseur est de toute première importance. Du côté féminin, cependant, la lutte revêt des aspects moins intenses. D'où la possibilité d'établir plus fortement une personnalité paisible plus rapidement. L'ordre de la pureté est encombré de rêveries pour la fille, au contour diffus, où il est extrêmement difficile d'alerter et de faire admettre une possibilité de péché. Et fréquemment, lorsque on ose tenter une formation de la conscience d'une jeune fille dans ce domaine, elle se met à en parler à sa mère et la mère de famille intervient dans les jours suivants, en déclarant d'une manière péremptoire, à la manière d'une mère de l'Église, que sa fille ne fait pas de péché en ce domaine. L'affaire est close. Souvent, le réveil est plus difficile parce que, lorsque il n'y a pas eu de maîtrise de cette imagination vagabonde, brusquement le feu peut s'enflammer et on peut découvrir une catastrophe qui semble arriver comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Enfin, l'adolescence se parachève avec les jeunes gens de 17 à 19 ou 20 ans. Si la croissance en taille se ralentit considérablement à partir de 18 ans, la puissance musculaire atteint sa maturité. La lutte pour la pureté, qui était souvent par rapport à soi-même, et à son corps et à son imagination, dans une éducation non mixte, s'entend, devient un positionnement par rapport à l'autre. Dans l'affirmation du moi, il y a une sorte de régression de la personnalité par concession au conformisme social, à celui surtout du milieu d'études, de loisirs, de paroisse, de travail. Le garçon, devenu intérieurement social, devient un homme parmi les hommes. Il devient lui-même achevé, surtout s'il s'investit dans un engagement d'homme, qu'il encadre des plus jeunes, qu'il rende service. La jeune fille prend possession de sa véritable identité par une ultime préparation à sa maternité et l'apprentissage de métiers tournés vers les autres, infirmière, éducatrice, est l'idéal. La recherche d'allure garçonnière, de la vulgarité ou la préparation de son indépendance n'est pas la véritable porte de sortie équilibrante de son adolescence. Ainsi donc, l'adolescence commençait vers 13 ans, quand est rompu l'équilibre psychologique de l'enfance. L'enfant marche, par une première étape, un nouvel équilibre intérieur, qui est atteint vers 17 ans, et prend fin, après une seconde étape, quand le moi personnel et le moi social sont fondus, en une seule personnalité, vers 19 ou plutôt 20 ans. Entre 13 et 16 ans, il faut remarquer que la personnalité de la fille, comparée à celle du garçon, l'emporte en richesse, en intériorité et en conscience. Plus complexe, car si l'opposition dure moins de façon explosive, son désir de liberté et d'épanouissement est plus caché, plus intérieur. Plus secrète, même si elle parle plus aisément, elle est constamment occupée de sentiments et de pensées qui ne s'extériorisent jamais pleinement. Le problème sera de l'empêcher d'avoir deux vies, une intérieure et une extérieure. De là parfois la révélation beaucoup plus surprenante d'un mal-être qu'on n'a pas vu arriver. Les cas les plus célèbres, les plus spectaculaires sont les cas d'anorexie, bien sûr. Quels sont les grands traits du caractère et quelle attitude doit-on avoir ? Nous pourrions commencer par certaines réflexions absolument générales. D'abord, il faut admettre que l'on ne gère plus un enfant qui vous écoute le doigt sur la couture du pantalon. Ensuite, il faut considérer qu'un échec apparent n'est jamais qu'un tremplin pour aller plus loin. Rassurez-vous, même lorsqu'il semble boudé, il faudrait des raisons gravissimes et répétées pour que l'enfant n'ait plus besoin de vous. Vous êtes donc en position de force. Et vous savez que même à 17 ans, vous les voyez se faire petits pour réclamer de l'argent, ou peut-être même des prières pour un examen. Vous avez donc toujours devant vous des moments propices qui se présenteront. Ensuite, les parents ont une obligation de moyens. Mais pas de résultat. Voilà sans doute qui va vous étonner, mais pour des raisons qui sont évidentes. L'enfant, en grandissant, dispose de son libre arbitre que Dieu lui a donné, qui lui permet de mériter. Par ailleurs, vous ne connaissez pas les chemins de Dieu pour chaque enfant. Il serait un peu long de vous rappeler l'histoire de sainte Monique et de saint Augustin, mais c'est au moment où elle a cru qu'elle perdait son enfant et qu'il allait sombrer définitivement en la quittant et partant vers Milan, qu'il a rencontré saint Ambroise, qui l'a converti. L'obligation aux yeux de Dieu porte sur la mise en place de votre part des moyens pour réussir. Voilà sur quoi Dieu jugera votre conscience. Autre élément important, il ne faut jamais rompre le dialogue. L'éducation est une direction conduite avec amour. Autre point encore, il faut établir des digues solides, sereines, non violente. Mais il est important que les points de repère existent. Et enfin, peut-être aurions-nous dû commencer par là, il faut prier pour ce que l'on n'arrive pas à faire. Face à l'instabilité, on assiste à des sautes d'humeur. Elles ont des causes cliniques, comme celle d'une grande fatigabilité. Il est fréquent de remarquer le cœur de la puberté par une chute des résultats scolaires de près de 6 mois. L'attention scolaire est instable, les pôles d'intérêt sont changeants. Mais qu'il s'agisse du jeu ou du travail, le garçon entreprend et n'achève pas. La fille se juge incomprise. Cette instabilité se ressent aussi pour l'effort moral. Cet enfant qui se tenait bien devient un mollasson. Même la piété lui demande maintenant un effort de volonté beaucoup plus important. À cet effet, il est très préjudiciable que ce soit juste à ce moment que les parents choisissent de laisser leurs adolescents faire leur prière du soir tout seuls. Car même si elles continuent à exister pendant un certain temps, c'est à ce moment-là que la tentation vient de la réduire, de la mal faire ou de la supprimer. La famille a pour rôle d'être une garantie, d'être une sécurité, même s'il y a une lutte, s'il n'est pas facile de réunir tous les enfants le soir pour la prière. Cette crise sera moins profonde si les parents ont profité de l'enfance pour exiger une très grande constance dans ce qui est entrepris. Oh, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas de dire à un enfant de se prendre en main ou de lui faire arrêter le piano parce qu'il ne travaille pas qu'il éduque. L'enfant se forme avec des béquilles, et ces béquilles, c'est la constance de la volonté des parents qui exige tous les jours, avec patience. Et ce qui est difficile au début de l'adolescence, c'est de relâcher la pression des détails tout en étant présent par son exigence. Il faut vouloir avec l'enfant et le conduire à vouloir. Mais il ne faut pas le lasser pour des broutilles. Il faut composer avec l'instabilité pour la réduire. Sachez aussi qu'il est plus positif de donner comme idéal d'acquérir une vertu que de combattre des ordres. Car un jeune a besoin de confiance, de force. Il faut le diriger vers la confiance en soi. Les enfants les plus agressifs sont ceux qui ont le moins de confiance en eux. Il faut aussi laisser un champ d'autonomie. Il faut apprendre à être autonome dans le monde. On voit souvent des mères de famille peut-être trop envahissantes, qui ne voient pas grandir leurs enfants, et qui donnent des conseils perpétuels, tous les jours, sur des points de détail, les empêchant d'acquérir peu à peu l'autonomie dont ils ont besoin. Mais l'autonomie se balise par des interdits. Et tout ce qui n'est pas interdit est permis. Or, le champ du possible reste vaste. Donc on peut laisser aux enfants une certaine liberté. L'erreur est normale, elle peut porter des vertus pédagogiques. Et la faute est une transgression, bien sûr, qui appelle une sanction. Mais sachez que l'absence d'interdit ou l'absence de limite crée un sentiment d'insécurité et de stress. Et même lorsqu'un enfant tente de franchir l'interdit, il a besoin de découvrir que le référentiel existe. Et dans ce domaine, le rôle du père ferme, serein, est de toute nécessité. Lorsqu'il n'y a pas de père présent psychologiquement, s'entend, ou lorsque le père vacille sur les limites qu'il a notées, les enfants sont un peu perdus. Et souvent, ils en font plus tard comme un reproche. Donc il est important que l'autorité paternelle se fasse sentir. On aperçoit aussi, en plus de cette instabilité, une revendication d'indépendance. La personnalité va peu à peu s'affirmer en des conditions souvent imprévues et irrationnelles. Saut d'humeur, colère, grondement d'un orage qui n'éclate pas, ou pression méthodique contre l'autorité. Manèges adroits pour esquiver ce qui est obligatoire. Les formes sont multiples et vous en avez sans doute fait l'expérience. Sachez simplement que filles comme garçons n'aiment plus à être traitées en enfant, à être dans le clan des petits. C'est vrai pour l'habillement, ils ne veulent plus être habillés comme tous les petits. Pour les sorties, si on les emmène faire des courses, on ne leur dit pas « les petits, venez avec moi ». Pour les appellations au sein de la famille, il faut accepter que l'adolescent devienne une personnalité à part entière. Il faut admettre aussi un droit à l'initiative, et même à quelques erreurs. Et puis il faut tâcher de créer des occasions d'intimité, de confidence, de conversation à bâton rompu, totalement informelle. Avec le père, ce sera un travail manuel, l'entretien de ses propres affaires, des aides. Telle mère de famille écoute ses enfants parce que elle choisit exprès de faire la cuisine. Pendant qu'ils arrivent et qu'ils se mettent à goûter, et au lieu d'avoir une mère investigatrice tournée vers eux, elle ne les écoute pas vraiment, semble-t-il. Mais comme elle est là, lorsqu'ils se décontractent, ils commencent à parler, et les conversations suivent leur cours. Ce peut être aussi d'aller faire des achats ensemble. Il faut savoir profiter des occasions pour garder le contact, pour procurer des conversations. En somme, ce ne sont plus des petits-enfants. Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit « Fils, obéissez dans le Seigneur à vos parents, car c'est juste. » Mais il ajoute « Et vous, pères, ne provoquez pas vos fils à la colère, mais éduquez-les dans la discipline et la crainte du Seigneur. » Tout est dit. On voit surgir aussi le goût de l'aventure. Le jeune adolescent n'est jamais à l'arrêt. À vélo, sur roller, souvent à l'extérieur quand il s'agit de garçons, il essaie tout, même en se faisant peur. Par ailleurs, le jeune adolescent vit de grands rêves. S'il lit, on le ressent dans ses choix de lecture. Rêves ambitieux avec leur part d'illusion. Le succès prodigieux du scoutisme en est une preuve éclatante. Et il n'a pas de concurrent plus grand que la stupidité conventionnelle du showbiz ou les footballeurs. Et il est très dommageable de dévaloriser l'aspiration aux belles choses en accordant cette influence prédominante aux héros à la mode ou aux footballeurs. Mais n'imaginez pas qu'il suffit d'interdire pour fermer les digues de ces vanités. La nature a horreur du vide, alors il faut donner d'autres idéaux, d'autres personnes à suivre, d'autres activités qui sont grandes et qui sont belles. Il faut réfléchir à ne pas avilir démesurément les sentiments des adolescents. Comme il est impossible de faire un barrage au monde, il faut procurer des idéaux. Un garçon de 14-15 ans n'est pas fait pour rester dans un fauteuil. Et certes, le scoutisme est sans doute le plus connu, mais il a existé d'autres mouvements qui prennent en main toute la personnalité, donnent des activités structurées, conduisent vers un engagement prononcé avec sa part de cérémonial, de façon à mettre en relief la grandeur d'âme, la grandeur de sentiment, de conduire à des activités qui ont leur part d'imprévu et de panache. Dans la grande adolescence, le jeune abandonne peu à peu les goûts purement aventuriers pour participer à ceux de l'âge mûr, donc à l'âge d'après. Mais il garde des valeurs modèles. Très contrastées d'ailleurs, ces valeurs modèles. Ce peut être successivement les Chouans, Lyautey, le capitaine d'Anjou, Elvis Presley ou un film de violence. On peut avoir une classe entière qui passe une partie d'une année à vivre dans le mythe d'un film de violence qui a été vu par tous. C'est très déprimant, mais peut-être parce qu'on n'a rien mis d'autre à la place dans leur tête. Il est cependant très rare, peut-être par bravade, qu'ils se choisissent, comme idéal à cet âge-là, un saint. Et dans ce choix des modèles, il faut sentir venir le coup, il faut commenter, il faut éduquer, il faut orienter, et puis il faut mettre aussi les jeunes dans des groupes où ils trouveront des valeurs dignes de ce que vous souhaitez qu'ils rencontrent. Le jeune évolue vers le désir concret d'action réaliste, d'influence constructive. Il faut développer le sens du devoir, du service, de là ces mouvements, où l'on sollicite l'encadrement des autres. C'est l'utilisation, par exemple, dans les pensions des chefs d'équipe, chez les scouts, de donner déjà des responsabilités. Au moment où le jeune semble commencer à se décourager, on commence à le passionner à l'éducation des autres. C'est là d'ailleurs que l'esprit démocratique ambiant a remplacé cette construction par, au moins dans le mouvement du scoutisme, ce que l'on appelait les pionniers rangers, où on met une même tranche d'âge ensemble, on ne s'occupe plus d'éduquer les plus jeunes, et cette tranche d'âge commune crée un projet démocratique. C'est un irréalisme ravageur qui perd l'occasion de donner un idéal. On entre dans le virtuel, dans l'irréel. Le projet est un irréel. Le projet est virtuel. Et ils sont tous au même âge bête et en même temps. On ne leur propose rien de constructif pour affirmer leur personnalité. On enferme l'adolescent dans une réalisation égoïste de quelque chose qui n'est que virtuel. Il est très malheureux que bien des parents cèdent à la lâcheté de leur adolescent, au moment justement où on leur demande cet effort du don d'eux-mêmes. Et ceux qui écoutent, les adolescents qui rechignent, manquent sans doute, parmi toutes les étapes de l'adolescence, un passage important. Mais il n'est pas rare que l'on entende des parents qui ne comprennent pas l'énigme. L'enfant réussit pleinement, ou MJCF, dans l'univers scout, ou dans un encadrement d'enfants de cœur, alors qu'à la maison il est impossible. Il faut admettre que les rôles sont complémentaires. Vous, parents, vous avez le labour austère, quotidien, avec le travail scolaire, avec le comportement d'éducation au jour le jour. Ce travail est nécessaire, et il est normal qu'il faille recourir à des occasions d'ouvrir leur champ d'autonomie, leur responsabilité, de procurer des occasions de leur faire confiance pour résoudre certaines souffrances internes de cette personnalité qui se construit mais qui n'est pas encore bien en place. Et je reproche à bien des mouvements de jeunes conventionnels, tels qu'ils sont, en principe, rendus, si ce n'est obligatoire, disons obligatoire par la pensée unique. On parle d'autonomie des jeunes, or, dans les colonies de vacances habituelles que l'on croise sur les chemins pendant l'été, rien n'est permis, tout est encadré, surveillé, légalisé. Un jeune ne se forme pas à la vie par ce procédé. Rien n'est plus délétère et démobilisateur que de n'avoir pour unique référentiel que la conformité à la législation qui est artificielle, chicaneuse et évolutive. La législation n'est qu'un moyen, et dans la mentalité des animateurs de colonies de vacances, on en fait une fin. Elle devient une sorte d'idéal à atteindre. Beaucoup de chefs de vacances, de colonies de vacances, ne vivent qu'avec cette Bible. Et alors, évidemment, le vrai sens moral est détruit, le sens de l'engagement disparaît, on ne fait absolument plus grandir les adolescents dans un tel contexte. Or, une simple observation, pour cet âge-là, montre à quel point la fille, par exemple, est heureuse si on lui confie quelques petites à protéger, à guider dans des activités soigneuses, bien faites. L'instinct de faire progresser un enfant lui est connaturel. Elle est une future mère. Le garçon réagit un peu différemment. Il a besoin de s'affirmer dans un groupe. S'il en est le responsable, le chef, l'adjoint, il se passionne. Mais, même à une autre place, il veut que son groupe réussisse. Et certains camps, parfois même traditionnels, ont du mal à intéresser cette tranche d'âge, car on omet de mobiliser l'adolescent pour son clan. Or, où le clan est trop évolutif, il change tous les jours, il est au contour trop flou, ou il n'a pas d'importance réelle dans la vie du camp. Le garçon a besoin de cette vie sociale. C'est un futur homme social, un homme de la place publique, et il a besoin de s'affirmer dans un groupe, encore plus s'il se passionne pour que ce groupe devienne le meilleur. Ceci me conduit à un autre point qui constitue la psychologie des adolescents. En grandissant, c'est le conformisme de groupe qui guette le plus fort l'adolescent. La force de ce que pensent les amis est immense. Et il est de nécessité stricte de prévoir les groupes où ils puissent se forger des amitiés saines. Choix des écoles, choix des mouvements de jeunes. Et il faut veiller avec beaucoup d'attention sur l'influence des cousins s'ils ne sont pas éduqués de la même façon. Et par une sorte de paradoxe, un mauvais groupe induit une manière collective d'être mauvais, jouisseur, individualiste, et oui, égoïste. Il existe d'ailleurs beaucoup de groupes d'influence, la famille, l'école, les mouvements de jeunes, mais aussi la rue, les habitudes de société. Le rôle de la paroisse, sur le plan social, est nettement plus faible de nos jours, mais il existe. Briser les conformismes est difficile, il faut de la patience, à bon escient, avec des justifications des choix accomplis. Car la réponse que l'on encourt le plus souvent de la part de l'adolescent, c'est « je ne peux pas faire autrement », entendu dans le sens « mais de quoi aurais-je l'air vis-à-vis des autres ?» Et c'est dans cette faille que se glisse ce qu'il convient d'appeler la mondanité. La mondanité est un mot assez large. Ce n'est pas la recherche d'un public argenté. Ce n'est pas nécessairement constitué par les soirées dansantes. Elle est une attention exagérée au camp, dira-t-on, au groupe. Et c'est certainement la mauvaise plante la plus subtile et la plus dure à éradiquer. Et d'expérience, il me semble que chez les grands adolescents, on arrive réellement à leur faire prendre une position énergique face à ce que j'appelle de façon globale la mondanité que par des retraites spirituelles, surtout du type exercice spirituel. Ce sont souvent les exercices spirituels qui marquent un réel tournant en ce domaine, et où l'on voit un retournement de situation, une piété, un comportement, des choix de métier, de vocation, des aiguillages fondamentaux se faire avec enfin une capacité de s'émanciper un peu de la mondanité. Mais retenez cependant qu'une seule erreur en ce domaine du choix des milieux peut être fatale. Il y a quelques années, un jeune qui se destinait au séminaire, qui était dans nos écoles, était resté dans une troupe de scouts d'Europe, sans aumônier apparent. Et celui-ci ne se découvrit pour la première fois qu'à l'annonce de la nouvelle. Alors que ce garçon fit son scoutisme entier sans aumônier, brusquement, le camp qu'il passa juste à la fin de sa terminale, l'aumônier fut là tout le temps, et il n'eut de cesse que de le décourager. Eh bien, ce jeune, depuis, traîne, cela ferait près de 8 ans, de fauteuil en fauteuil, d'inactivité en inactivité, de petits jobs qui remplacent un vrai métier ou de véritables études. Il n'a pas terminé son adolescence, il est brisé. L'adolescent est contestataire. Si vous lui offrez le plaisir d'un corps professoral contestable, vous lui développez des habitudes qui ont beaucoup de chances de vous revenir dessus par un effet d'élastique. Ou l'intelligence sera faussée, ou c'est le principe d'autorité qui sera définitivement détruit. Vous comprenez que si les professeurs critiquent l'Église, enseignent des choses fausses dans l'histoire de l'Église, par exemple sur l'Inquisition, ou l'enfant croira son professeur, ou vous êtes obligé de détruire le professeur. Mais vous ne savez jamais comment va se terminer l'histoire. Ce n'est que si l'ensemble des éducateurs vide votre idéal que vous pouvez réfréner l'instinct de critique. Face aux avatars inévitables de toute société, aucune société n'est parfaite. Ce qui signifie qu'il ne faut jamais, jamais être le relais de la critique d'un adolescent. Il est évident qu'il faut le laisser s'exprimer, sans plus. Si vous l'empêchez de s'exprimer, vous ne saurez pas ce qui se passe, vous ne pourrez pas agir, vous ne pourrez pas l'aider. Mais quand on voit des mères de famille, par exemple, lorsque leurs filles rentrent de pension, elles ont 15 ans, elles critiquent tout de A à Z. Et les mères de famille sont sens dessus-dessous, sont persuadées que l'école ne tourne pas, il faut un petit peu réfréner ces jugements sommaires. Vous n'avez pas à être le relais, vous n'avez pas à prendre au sérieux toutes ces critiques. Écoutez-les pour savoir un peu. Mais en tout cas, que les enfants ne se sentent pas soutenus dans la critique, car vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Mais malheureusement, peut-être est-ce désagréable lorsqu'on éduque. Il faut savoir que même dans un groupe bon, lorsque vous avez choisi un bon groupe d'éducation, école, mouvement, paroisse, il existe encore une variété de choix qui constitue un risque. Le choix doit être le meilleur possible de votre part, mais rien n'est infaillible. Et là encore, le contact, la conversation peut résoudre bien des difficultés. Ce n'est vraiment qu'un peu plus tard que le jeune va affirmer sa propre identité sociale. S'il arrive à se faire valoir comme animateur, chef, entraîneur, son idéal sera bien plus affirmé que s'il ne peut aligner que ses résultats à son concours d'entrée aux grandes écoles ou ses réussites en sport individualiste. Il est bien plus éducatif de choisir pour un jeune de s'occuper des autres que de le laisser avoir d'occasion de se vanter sur de simples petites réussites personnelles. Et profiter parfois du levier des camarades qui l'entraîneront à vouloir se donner, s'engager. Il est difficile pour les parents d'admettre cette intervention extérieure, mais sachez qu'en philosophie, la famille n'est pas une société parfaite. On appelle société parfaite une société qui comporte en elle-même toutes les structures nécessaires pour pouvoir remplir totalement son rôle. Et la famille n'est pas prévue pour pouvoir tout faire toute seule. Il lui faut la société civile, il lui faut l'Église. Or, on rencontre des parents comme tétanisés à l'idée de faire affronter le monde à leur progéniture. Des parents qui veulent que tout se passe intramuros. Mais sachez simplement, si vous en avez déjà vu, que d'expérience, le résultat est toujours catastrophique. Révolte tardive, totale, psychologie atrophiée, etc. Cependant, nul parent n'est en droit d'abdiquer ses fonctions sous prétexte que l'enfant est en pension, qu'il est dans une chorale, qu'il est dans un mouvement scout. Et d'ailleurs, certains parents se servent de ce prétexte pour justifier leur lâcheté, car évidemment, c'est exigeant d'éduquer. Non, il faut accepter qu'il faut vivre soi-même d'héroïsme quotidien. Il est bien plus facile de les gaver de télé dès leur retour de pension, de leur permettre n'importe quel habillement ou n'importe quelle musique, en disant peut-être que leurs supérieurs dans les écoles exagèrent. Attention, Devant Dieu, ce sont les parents les premiers éducateurs. Et aucun enfant ne peut prendre au sérieux ce qu'on lui apprend si les parents font le contraire ou tolèrent le contraire avec trop d'aisance. Il faut que la complémentarité joue à plein. Il faut comme une digestion faite avec bon esprit. Digestion de ce qui est donné dans l'éducation. Que cette digestion soit inoculée par le courrier des parents, par leur attitude, par leur conversation. Et si vous devez avoir une douceur d'écoute, il faut aussi une patience pour corriger, pour apprendre à tolérer ce qui est tolérable. Apprendre aux enfants que quelquefois, un effort qui semble difficile, c'est la croix que le bon Dieu donne à porter, il faut être capable de porter sa croix. Et puis éviter les pièges les plus énormes, parmi lesquels, bien sûr, l'isolation de l'enfant dans sa musique. Quand on lui fournit des moyens pour écouter une musique que l'on ne maîtrise pas, vous n'imaginez pas le nombre de cassettes ou de CD sur lesquels il est écrit musique militaire et qui sont des musiques de rock. Dans de très bonnes familles, j'oserais presque dire dans la majorité. Le téléphone portable, qui est un véritable écran avec le réel. Allons, soyons sérieux. Il est inadmissible que ce téléphone puisse contrecarrer la conversation avec les parents ou le repas familial. Que j'ai vu de parents qui disent « Mais, ainsi je sais où est mon enfant. » Et c'est tout l'inverse. Vous ne savez jamais où il est. Et ensuite, filles ou garçons, ils ont alors accès à un univers immense pour se défiler des contraintes du quotidien dans le dos des parents. Imaginez, quelques heures que ce soit, qui viennent troubler votre sérénité, contrarier leur humeur. Et tout de suite, c'est l'isolation dans un chambre, tout est passé au crible avec les amis les moins sûrs. Abordons maintenant le développement intellectuel. Puisque l'évolution de la puissance intellectuelle est considérable durant ces quelques années cruciales, capable d'abstractions de plus en plus fortes, le jeune forme sa pensée en réfléchissant d'abord sur les thèmes proposés par le corps professoral, ce qui permet au passage de voir le bien ou le mal qui peut se faire de façon irréversible. Quand les nécessités des programmes inflige quelque ouvrage déformant, il est un très grand profit de le parcourir et de susciter des discussions. Mais le principe demeure que la situation normale est d'être de l'avis du professeur. D'où l'importance d'avoir un choix de professeur cohérent. D'une façon générale, les enfants ne veulent plus que les parents s'immiscent dans leur travail. La réaction est parfois violente, à tel point que les parents ont même peur. Alors quelle attitude avoir? Une discussion, la connaissance des activités des enfants se sollicite. Il faut savoir perdre du temps au bon moment, quand cela se présente. Je vous citais tout à l'heure la mère de famille, comme par hasard, qui fait toujours la cuisine au moment où les enfants goûtent. Tel père qui profite des trajets, en allant faire du sport avec son fils. Et c'est là qu'on apprend ce qui se passe en classe, qu'on perçoit les soucis du moment ou qu'on découvre certains professeurs. Il existe quelques parents qui éprouvent des complexes. Ils n'ont pas fait d'études, disent-ils, ou en tout cas, pas dans les disciplines abordées. Mais qu'importe, car le contact à garder n'est pas dans l'ordre de la surenchère cérébrale. C'est le jugement qu'il faut former, qui est long à former. Face aux grandes questions morales, sociales, religieuses, techniques, et si les informations sont mal gérées, ce jugement se déforme. Et surtout, par pitié, ne pas donner des réponses stupides, dilatoires. À titre d'humour, une personne m'expliquait récemment qu'une mère de famille avait répondu à sa fille de 15 ans qu'elle ne devait pas porter de jupe courte car ça faisait pleurer la Sainte Vierge. Comment voulez-vous que cette pauvre fille ait des idées précises ? Il faut tolérer que l'enfant soit quelquefois binaire dans ses explications. Il y a le tout bon et le tout mauvais. Chez un garçon, c'est même important. plus structuré que la fille, il a besoin de cataloguer dans un clan le bien et le mal, avant de construire tout autour de ce clan les raisons de ce jugement. Il faut, quand l'heure est propice, expliquer les interdits avec des arguments véritablement raisonnables. Peut-être pas justement au moment du heurt, à d'autres moments. Ce qui explique une certaine largeur de vue, en même temps qu'une grande fidélité à ses principes. Sur les habillements, sur la musique, sur les soirées, sur la messe traditionnelle, sur la contraception. Le tout, c'est d'expliquer au bon moment. Et à d'autres moments, il faut se contenter de tenir sur sa position. Lorsqu'enfin quelque chose vous déplaît, pensez qu'on ne peut pas faire, ne peut pas supprimer quelque chose si l'on ne procure pas une denrée de remplacement. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour toute forme d'art, de lecture, de loisir. Mais d'une façon générale, il est important de conduire, de nourrir, d'alimenter, d'être proche de ces jeunes, en évitant autant que faire se peut les heurts de toutes sortes. Enfin, parmi les transformations les plus importantes, nous pouvons nous arrêter sur le besoin d'aimer, les transformations physiologiques profondes qui affectent l'adolescent entraînent nécessairement des modifications de son affectivité. Il intériorise ses sentiments, ce qui les rend plus difficiles à pénétrer, et ses sentiments sont plus profonds, plus sérieux, plus lourds de conséquences. Les amitiés deviennent vives, alors que l'enfant n'a souvent que des camarades. Elles ne sont pas à négliger, mais à orienter. L'influence réciproque de deux filles ou de deux garçons entre eux peut être déterminante pour la suite. Soyez donc ouverts, mais formez le jugement. Chez la fille, le besoin d'aimer et d'être aimé est très précoce et prend une place prépondérante qui gère une très grande partie des comportements. Le showbiz prend fort chez les jeunes filles par ce biais. Alors que pour les garçons, c'est plutôt l'idéalisation d'une réussite, comme pour un sportif. Une plus grande sensibilité peut entraîner le malaise de se sentir incompris. Alors pauvres enfants, soyez des gens heureux, et non d'éternels aigris d'une société qui ne va pas bien. Par ailleurs, l'adolescent a aussi besoin d'encouragement quand on peut les lui donner. En ce domaine de la sensibilité et des sentiments, les rapports entre garçons et filles doivent être abordés. Il reste vrai que dans un milieu éduqué de façon catholique, on arrive à éviter de mauvais problèmes à de nombreux adolescents. Cependant, les débordements de la nature et les épreuves morales n'étant pas les mêmes chez tous, certains de nos jeunes peuvent être travaillés par de graves difficultés, parfois répétitives, et parfois assez jeunes. Sachez que nul n'est à l'abri. Par ailleurs, vous êtes des éducateurs, donc vous êtes chargés de conduire vers un état de perfection. L'accompagnement de l'adolescence n'est pas simplement d'être au courant de leurs aventures. La difficulté en ce domaine est de ne point bondir au risque, de ne plus pouvoir avoir accès à aucune discussion sérieuse. Sachez cependant que la mixité, comme système d'éducation, est une recherche du risque. Le nombre des chutes engendrées frôle les 100%, même si vous n'en savez rien. Il est donc moralement interdit d'y soumettre les adolescents. C'est là une règle de théologie morale qui n'est pas même laissée à votre choix. Alors que certains parents font le sacrifice d'écoles non mixtes, avec le soutien spirituel adéquat pour traverser l'adolescence, il manque de la prudence élémentaire pour envoyer les jeunes en séjour linguistique. Le risque est grave, car dans l'esprit du voyageur, il est en situation de vacances, où les pressions morales lui semblent moins contraignantes. Les soirées présentent aussi l'inconvénient grave d'avoir pour finalité la pratique de la mixité. Or, par instinct, les adolescents sentent que c'est un domaine dangereux. Et là, ce sont les parents qui leur demandent d'en faire l'expérience. Comment voulez-vous que les jeunes s'y retrouvent ? La mixité familiale est protégée de par la nature, à condition qu'on ne permette pas n'importe quel comportement. Il faut veiller aussi à ce que les camarades amenés à la maison aient toujours les qualités requises pour être appelé un jour à devenir l'époux ou l'épouse d'un des enfants. Il faut le dire à ses propres enfants, car c'est une simple réalité. Les relations sont cependant d'un nouveau genre. Le garçon oscille entre timidité et fanfaronnade. Il est rarement lui-même face aux filles. Quand sa sœur amène son ami à la maison, il est complètement absurde et intenable. Les filles, quant à elles, sont à l'affût de tout ce qui peut manifester une préférence. Aussi sont-elles entrantes, intéressées, faussement admiratives de la conversation des garçons. L'évolution de la puberté chez les filles réveille en elles un instinct sentimental fort, alors que l'aspect physique les effleure moins immédiatement que les garçons. Elles en éprouveraient même une idée de gêne. Actuellement, en ce monde où elles ont pris l'habitude de régir ceux qui les entourent, elles acquièrent une facilité de conquête qui est déconcertante. Il n'est plus rare qu'elles soient les premières à écrire, à téléphoner, à rechercher des cavaliers pour leur sortie. Leur maturité plus précoce leur fait souvent anticiper les désirs des garçons. Je parle du cas général, en milieu préservé, qui peut avoir ses exceptions. Mais il est encore plus affligeant de voir parfois des mères de famille entrer dans ce jeu, usant d'arguments spécieux du genre « je préfère savoir » ou « je veux qu'elle se marie bien ». Le garçon n'aborde pas les problèmes dans le même ordre. Chez lui, c'est surtout la sensualité qui s'éveille. En ce domaine, ses combats sont forts. Sans être spartiate, il faut s'efforcer que le cadre de vie n'amollisse pas l'adolescent. Le garçon ressent en lui-même les premières manifestations de l'éveil de la sexualité et la ressent même comme un plaisir. Aussi est-ce contre ce plaisir qu'il doit lutter, alors qu'il semble s'imposer à lui. Et s'il ne le réfrène pas, son imagination va prendre le relais pour l'amplifier. L'attrait de lecture ou de regard l'entraîne dans le même sens. L'instinct de recherche de la sensualité peut devenir dominant, obsessionnel, entraînant des péchés à répétition. Et pourtant, ce n'est point qu'il en éprouve une fierté. Les lâchetés dans ce domaine, si elles deviennent répétitives, peuvent influer très fortement sur son caractère, au point d'engendrer une sorte de tristesse et d'accablement de fond, vers les 14-15 ans. Une sorte de découragement spirituel peut suivre. Donc une mise en place de la conscience se joue, et elle n'est possible que par la grâce, et donc l'usage très fréquent, de la communion et de la confession. Il est vrai que vous n'avez pas le droit de pénétrer dans ce sanctuaire de la conscience, vous ne saurez jamais exactement ce qui s'y passe. Mais en revanche, vous avez le devoir de faciliter la confession très très fréquente, en évitant que ce soit un véritable parcours d'obstacles, et surtout pendant les vacances. Évitez par ailleurs de forcer vos enfants à communier. Leur conscience les regarde, et l'ajustement de la conscience se fait avec le prêtre. Cela fait partie des renoncements qu'il faut savoir faire. Priez et donnez-leur les possibilités de grandir dans la grâce. Le reste n'est plus votre domaine. Mais par ailleurs, les mères de famille ne comprennent pas toujours le degré de vulnérabilité de leurs garçons. Elles laissent traîner n'importe quelle revue, magazine, catalogue, livre d'art sans discernement. Alors qu'au milieu de cette tempête intérieure, il est évident que l'adolescent, seul face à une télévision ou Internet, dérive très aisément vers le mal, et peut-être même assez souvent. Et de toute façon, sans aucune exception, face à ces facilités, la tentation l'aura nécessairement effleurée. Il faut comprendre la tempête qui existe dans l'âme pour ne point laisser un adolescent seul face à ses instruments. Et de la même façon, si par malheur la télévision existe chez vous, il ne faut point la mettre dans un coin retiré de la maison. Le remède est pire que le mal. Quand une mère est pleurée, s'en rend compte, qu'elle découvre que son fils a navigué sur Internet en des sites peu avouables, a regardé des émissions qu'elle n'aurait pas aimé qu'il voie, Elle met le mal sur le dos de sa confiance qui a été trompée. Mais non. Elle a trop compté sans cette nature animale qui se réveille. C'est avec la nature blessée qu'elle a trop joué. Pensez aussi au mal que peuvent faire les babysitting quand il y a 4 heures à n'utiliser à rien, avec la télévision de vos amis ou leur ordinateur. Parfois, on commence par l'échange de messages avec des amis.
Et puis la tentation survient.
La fille qui sollicite, ou pire encore, qui provoque, ne sait pas toujours à quel point la réponse de l'adolescent est d'ordre sensuel. Les sentiments ne s'y ajoutent que par accroc. Et si elle arrive à ses fins, elle en est même déçue en certains cas. Le garçon, de son côté, connaît sa propre fragilité, et s'il joue au flirt, il sait qu'il succombe à l'attrait physique. Quels sont les remèdes? Donner une formation à la pureté qui soit précise, et dans notre monde moderne, peut-être malheureusement suffisamment précoce, car il vaut mieux arriver 6 mois trop tôt qu'un quart d'heure trop tard. Donner le goût de la pureté, l'attrait de la grandeur, l'amour de la beauté de Dieu, et les moyens, par l'approche fréquente de la confession. Et si par malheur la passion d'amour est née, trop tôt, sachez qu'une passion n'est pas un péché parce qu'elle est une passion, il faut l'expliquer paisiblement. Expliquer que c'est un mouvement de l'âme qui tire sa valeur morale de son objet, de ses circonstances, et que la violence de ses manifestations peut obscurcir l'intelligence. Et compte tenu de ces événements, il faut proposer aux jeunes de porter cette passion au jugement d'un prêtre. Et puis enseigner qu'une passion se règle ou se combat si nécessaire.
Il me semble grave aussi que bien des parents ne soient pas capables de donner une formation suffisante au mariage, sous prétexte peut-être d'une sorte de pudibonderie dépassée. Il est tout de même surprenant, par exemple, que des jeunes ne s'aperçoivent du réel sujet, de l'équilibrage, de l'espacement des naissances, que 3 ans après leur mariage. Autre exemple, et il est bien tard, pour faire sentir le risque des mariages dans des milieux religieux ou sociaux différents, quand on a en face de soi deux jeunes qui sont quasiment fiancés. De même, les rôles complémentaires de l'homme, de la femme, leurs approches psychologiques différentes des problèmes, la manière d'être délicat l'un avec l'autre, au travers de ces psychologies différentes, autant de thèmes d'éducation. Oh, ce n'est pas une seule conversation qu'il faut, où l'on déverse comme un tombereau d'informations et de conseils toutes ces données. Non, c'est un état d'esprit, des commentaires sur ce qui nous entoure, des explications paisibles à plusieurs moments de l'adolescence, lorsqu'on parle de l'avenir, lorsque l'on croise une situation malheureuse. Certains silences, certaines lacunes, certaines omissions peuvent être extrêmement graves pour l'avenir. C'est donc un rôle important des parents. Il faut en être conscient.
Ainsi donc, en cette période de l'adolescence, il faut profiter de toutes les occasions opportunes pour clarifier, purifier, ordonner le sentiment. Que ce soit les enthousiasmes d'une saine amitié, les emportements sans raison, les fascinations intellectuelles, les passions d'amour. Il faut donc une notion noble de l'amour. Un des traits les plus desséchants de cette société, c'est que l'amour humain est devenu un instinct sans visage, une fatalité animale et malsaine, et dépourvue de toute spiritualité. Enfin, le domaine de la piété. Il est évident que tout ce combat, pureté, caractère, sont sous-tendus par la qualité de la vie spirituelle. Celle des parents d'abord, car les grâces se méritent. Celle des enfants. Il faut leur donner de bonnes habitudes dès l'enfance. Prière, chapelet, confession. Il faut les mettre dans un contexte où ils ne sont pas des atrophiés de la formation religieuse. Il serait absurde de ne pas les forcer à apprendre leur catéchisme, de les faire arrêter après la communion solennelle. Il faut les habituer à suivre des retraites tous les ans. Et face à certains jours de perte d'enthousiasme spirituel, il faut maintenir des digues précises, calmes, constantes, comme la prière en famille, l'assistance à la messe avec un missel, les confessions prévues pour des grandes dates, L'adolescent est agité souvent, et son expression est plus tournée vers l'action, pour le garçon, j'entends. Aussi, le service de messe est un des meilleurs moyens pour lutter contre son apathie spirituelle. La piété de la fille est moins généreuse au départ, mais il faut la faire croître en douceur, et elle peut se construire en profondeur. Le garçon est très pieux à 12 ans, très impie à 15, et il a de faces brusques. Il est capable d'immenses générosités, qui parfois s'effondrent, parfois durent. Il faut aider et profiter de ces bons moments. À 17 ans, le combat spirituel rencontre une épreuve difficile. Le départ de la maison, souvent, le début des grandes écoles, des études supérieures où on a peu le temps de s'occuper de son âme, des apprentissages. Et le jeune homme découvre le véritable enjeu de la vie, et il faut qu'il l'assume. Il est nécessaire qu'il puisse voir aisément un prêtre en lequel il ait confiance, pour des motifs plus nobles que du simple copinage. Et il est avantageux de maintenir la nécessité des retraites. En conclusion, la croix des parents, mais aussi leur force, c'est la persévérance et l'espérance. Mais la croix n'est pas que pour les parents, elle appartient aussi à la vie des enfants. Une famille se réunit au pied de la croix, autour de la croix, comme elle s'alimente au pied de la messe, à la messe. C'est comme une lumière générale qui éclaire tout. La famille doit vivre l'esprit de la croix. Les conversations, les remises au point, au cours des différentes étapes, ne sont point de simples recettes humaines. L'esprit de foi doit les imprégner. La foi est un don qui se perd difficilement. Éclairez de cette puissante lumière vos enseignements sur la charité pratique, sur les traits du caractère qu'il faut vaincre, sur le mariage auquel il faut se préparer, sur la qualité du travail. Et si par les renoncements successifs par l'apprentissage du sacrifice, par l'amour de la messe, par l'éveil au service des plus dépourvus, l'adolescent a vécu le don de soi, il est probable que, consacré à Dieu ou dévoué à son époux ou épouse, il construira sa vie sur la vertu noble de l'amour, dont la forme surnaturelle s'appelle la charité.